Lucien, ému aux larmes, serra la main d'Étienne. « En dehors du monde littéraire, dit le journaliste en se levant et se dirigeant vers la grande allée de l'observatoire, où les deux poètes se promenèrent comme pour donner plus d'air à leurs poumons, il n'existe pas une seule personne qui connaisse l'horrible odyssée par laquelle on arrive à ce qu'il faut nommer, selon les talents. La vogue, la mode, la réputation, la renommée, la célébrité, la faveur publique, ces différents échelons qui mènent à la gloire et qui ne la remplacent jamais. Ce phénomène moral si brillant se compose de 1000 accidents qui varient avec tant de rapidité qu'il n'y a pas d'exemple de deux hommes parvenus par une même voie. Canalis et Nathan sont deux faits dissemblables et qui ne se renouvelleront pas. D'Arthez, qui s'éreint à travailler, deviendra célèbre par un autre hasard. Cette réputation tant désirée est presque toujours une prostituée couronnée. Oui, pour les basses œuvres de la littérature, elle représente la pauvre fille qui gèle au coin des bornes. Pour la littérature secondaire, c'est la femme entretenue qui sort des mauvais lieux du journalisme et à qui je sers de souteneur. Pour la littérature heureuse, c'est la brillante courtisane insolente qui a des meubles, paye des contributions à l'État, reçoit les grands seigneurs, les traite et les maltraite, a sa livrée, sa voiture, et qui peut faire attendre ses créanciers altérés. Ah, ceux pour qui elle est, pour moi jadis, pour vous aujourd'hui, un ange aux ailes diaprées, revêtue de sa tunique blanche, montrant une palme verte dans sa main, une flamboyante épée dans l'autre, tenant à la fois de l'abstraction mythologique qui vit au fond d'appui et de la pauvre fille vertueuse exilée dans un faubourg. Ne s'enrichissant qu'aux clartés de la vertu par les efforts d'un noble courage, et revolant aux cieux avec un caractère immaculé, quand elle ne décède pas souillée, fouillée, violée, oubliée dans le char des pauvres. Ces hommes, à cervelle cerclée de bronze, au cœur encore chaud sous les tombées de neige de l'expérience, ils sont rares dans le pays que vous voyez à nos pieds, dit-il en montrant la grande ville qui fumait au déclin du jour. Une vision du cénacle passa rapidement aux yeux de Lucien et l'émut. Mais il fut entraîné par Lousteau qui continua son effroyable lamentation. Ils sont rares et clairsemés dans cette cuve en fermentation, rares comme les vrais amants dans le monde amoureux, rares comme les fortunes honnêtes dans le monde financier, rares comme un homme pur dans le journalisme. L'expérience du premier qui m'a dit ce que je vous dis a été perdue, comme la mienne sera sans doute inutile pour vous. Toujours la même ardeur précipite chaque année, de la province ici, un nombre égal, pour ne pas dire croissant, d'ambitions imberbes qui s'élancent la tête haute, le cœur altier, à l'assaut de la mode. Cette espèce de princesse tourandocte des mille et un jours pour qui chacun veut être le prince calafe. Mais aucun ne devine l'énigme. Tous tombent dans la fosse du malheur, dans la boue du journal, dans les marais de la librairie. Ils glanent, ces mendiants, des articles biographiques, des tartines, des faits parés aux journaux, ou des livres commandés par de logiques marchands de papier noirci, qui préfèrent une bêtise qui s'enlève en 15 jours. Un chef-d'œuvre du qui veut du temps pour se vendre. Ces chenilles, écrasées avant d'être papillons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à mordre un talon naissant sur l'ordre d'un pacha au constitutionnel, de la quotidienne, des débats, au signal des libraires, à la prière d'un camarade jaloux, souvent pour un dîner. Ceux qui surmontent les obstacles oublient les misères de leur début. Moi qui vous parle. J'ai fait pendant 6 mois les articles où j'ai mis la fleur de mon esprit, pour un misérable qui les disait de lui. Qui, sur ses échantillons, a passé rédacteur d'un feuilleton? Il ne m'a pas pris pour collaborateur, il ne m'a même pas donné 100 sous. Je suis forcé de lui tendre la main et de lui serrer la sienne. Et pourquoi? Dit fièrement Lucien. Je puis avoir besoin de mettre 10 lignes dans son feuilleton, répondit froidement Lousteau. Enfin, mon cher, travailler n'est pas le secret de la fortune en littérature, il s'agit d'exploiter le travail d'autrui. Les propriétaires de journaux sont des entrepreneurs, nous sommes des maçons. Aussi, plus un homme est médiocre, plus promptement arrive-t-il. Il peut avaler des crapauds vivants, se résigner à tout, flatter les petites passions basses des sultans littéraires comme un nouveau venu de Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà de la politique dans un journal du centre droit et qui travaille à notre petit journal. Je lui ai vu ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur en chef. En n'offusquant personne, ce garçon-là passera entre les ambitions rivales pendant qu'elles se battront. Vous me faites pitié. Je me vois en vous comme j'étais, et je suis sûre que vous serez, dans 1 ou 2 ans, comme je suis. Vous croirez à quelque jalousie secrète, à quelque intérêt personnel dans ces conseils amers. Mais ils sont dictés par le désespoir du damné qui ne peut plus quitter l'enfer. Personne n'ose dire ce que je vous crie, avec la douleur de l'homme atteint au cœur, et comme un autre Job sur le fumier. Voici mes ulcères. Lutter sur ce champ, ou ailleurs, je dois lutter, dit Lucien. Sachez-le donc, reprit Lousteau, cette lutte sera sans trêve si vous avez du talent, car votre meilleure chance serait de n'en pas avoir. L'austérité de votre conscience aujourd'hui pure fléchira devant ceux à qui vous verrez votre succès entre les mains. Qui, d'un mot, peuvent vous donner la vie et qui ne voudront pas le dire? Car, croyez-moi, l'écrivain à la mode est plus insolent, plus dur envers les nouveaux venus que ne l'est le plus brutal libraire. Où le libraire ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un rival. L'un vous éconduit, l'autre vous écrase. Pour faire de belles œuvres, mon pauvre enfant, vous puiserez à pleine plumée d'encre dans votre cœur la tendresse, la sève, l'énergie, et vous l'étalerez en passion, en sentiment, en phrases. Oui, vous écrirez au lieu d'agir, vous chanterez au lieu de combattre, vous aimerez, vous haïrez, vous vivrez dans vos livres. Mais quand vous aurez réservé vos richesses pour votre style, votre or, votre pourpre pour vos personnages, que vous vous promènerez en guenilles dans les rues de Paris, heureux d'avoir lancé, en rivalisant avec l'état civil, un être nommé Adolphe, Corinne, Clarisse, René, que vous aurez gâté votre vie et votre estomac pour donner la vie à cette création, vous la verrez calomniée, trahie, vendue, déportée dans les lagunes de l'oubli par les journalistes, ensevelie par vos meilleurs amis. Pourrez-vous attendre le jour où votre créature s'élancera réveillée par qui? Quand? Comment? Il existe un magnifique livre, Le Pianto de l'incrédulité, Obermann, qui se promène solitaire dans le désert des magasins, et que dès lors les libraires appellent ironiquement un rossignol. Quand Pâques arrivera-t-il pour lui? Personne ne le sait. Avant tout, essayez de trouver un libraire assez osé pour imprimer les marguerites. Il ne s'agit pas de vous les faire payer, mais de les imprimer. Vous verrez alors des scènes curieuses. Cette rude tirade, prononcée avec les accents divers des passions qu'elle exprimait, tomba comme une avalanche de neige dans le cœur de Lucien et y mit un froid glacial. Il demeura debout et silencieux pendant un moment. Enfin son cœur, comme stimulé par l'horrible poésie des difficultés, éclata. Lucien serra la main de Lousteau et lui cria « Je triompherai !»« Bon, dit le journaliste, encore un chrétien qui descend de l'arène pour se livrer aux bêtes. Mon cher, il y a ce soir une première représentation au Panorama Dramatique, elle ne commencera qu'à 8 heures. Il est 6 heures, allez mettre votre meilleur habit, enfin, soyez convenable. Venez me prendre. Je demeure rue de la Harpe, au-dessus du café Cervelle, au 4e étage. Nous passerons chez Doria d'abord. Vous persistez, n'est-ce pas? Eh bien, je vous ferai connaître ce soir à des rois de la librairie et quelques journalistes. Après le spectacle, nous souperons chez ma maîtresse avec des amis, car notre dîner ne peut pas compter pour un repas. Vous y trouverez Finot, le rédacteur en chef et le propriétaire de mon journal. Vous savez le mot de Minette du Vaudeville, le temps est un grand maigre. Eh bien, pour nous, le hasard est aussi un grand maigre, il faut le tenter. Je n'oublierai jamais cette journée, dit Lucien. Munissez-vous de votre manuscrit et soyez en tenue, moins à cause de Florine que du libraire. La bonhomie de camarade, qui succédait aux cris violents du poète peignant la guerre littéraire, toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la parole grave et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les hommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne soupçonna point la réalité des malheurs moraux que lui dénonçait le journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes, entre deux systèmes représentés par le cénacle et par le journalisme, dont l'un était long, honorable, sûr, l'autre semé d'écueils et périlleux, plein de ruisseaux fongeux d'où devait se crotter sa conscience. Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble amitié de d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet esprit mobile aperçut dans le journal une arme à sa portée. Il se sentait habile à la manier. Il l'a voulu prendre. Ébloui par les offres de son nouvel ami, dont la main frappa la sienne avec un laisser-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la presse, chacun a besoin d'amis, comme les généraux ont besoin de soldats. Lousteau, lui, voyant de la résolution, le racolait en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à son premier ami, comme Lucien à son premier protecteur. L'un voulait passer caporal, l'autre voulait être soldat.